Bien, on va pouvoir commencer. Donc, je vais présenter aujourd'hui la deuxième séance sur 3, donc sur ce thème qui visait à rendre compte d'une certaine façon entre sociologie politique et philosophie politique du thème de l'année de l'Unipop, liaison dangereuse. Donc, mon thème pour les 3 séances, c'est « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard ». Et donc, la deuxième séance concerne, après une séance sur les rapports entre national et mondial, sur lequel j'interviendrai peu aujourd'hui, concerne l'analyse de 4 figures, ce que j'ai appelé 4 figures du brouillage idéologique, Laurent Bouvet, Jean-Claude Michéa, Éric Zemmour et Alain Soral. Et la troisième séance sera consacrée à l'analyse du Front National de Marine Le Pen, la semaine prochaine. Je vais d'abord rappeler quelques éléments de la problématique générale, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, et pour réactiver les souvenirs des autres. Donc l'ouvrage de référence pour bâtir ma problématique est un livre de Pierre Bourdieu de 1988 qui s'appelle « L'ontologie politique de Martin Heidegger », et plus particulièrement le chapitre 1 de ce livre où Bourdieu s'intéresse à l'émergence de ce qu'il appelle une humeur idéologique dite « volkisch » liée au peuple, ou encore révolutionnaire conservatrice, ça dans l'Allemagne de Weimar, c'est-à-dire la République allemande entre 1918 et 1933. Cette humeur idéologique, selon Bourdieu, ne constitue pas une construction intellectuelle cohérente produite consciemment par quelques penseurs qui seraient coordonnés, mais cela renvoie, comme il écrit, à un discours confus, syncrétique, doté de sources innombrables qui jaillissent de toutes parts. Bref, quelque chose qu'il appelle aussi une orchestration sans chef d'orchestre, qui n'a rien à voir avec une théorie du complot, on y reviendra. Donc une de mes hypothèses principales explore donc des logiques analogues à celles analysées par Bourdieu dans l'Allemagne de Weimar, en France aujourd'hui, et peut-être plus largement en Europe avec des spécifications. Ainsi, on pourrait faire l'hypothèse qu'une humeur néoconservatrice à tonalité xénophobe, machiste, homophobe, nationaliste se consoliderait aujourd'hui dans l'espace public à travers un double canal, plus officiel dans les grands médias et plus underground sur Internet. Cette humeur idéologique néoconservatrice pourrait être le terreau intellectuel de ce qu'on pourrait appeler un post-fascisme, notamment sous la forme partisane prise par le Front National. Si je parle de post-fascisme, en référence à une notion avancée par le géographe libertaire Philippe Pelletier, c'est pour pointer seulement des analogies entre les années 1930 et la situation actuelle. Les historiens et les sociologues savent que les choses ne se répètent jamais exactement en histoire et que les différents contextes historiques ont à chaque fois des spécificités, donc on peut simplement pointer des analogies, pas des identités entre ces phénomènes. Si je m'intéresse à ce néoconservatisme, c'est en rapport avec, c'est la deuxième partie du thème général, le brouillard intellectuel, éthique et politique qui règne largement au sein des gauches aujourd'hui. Donc dans la première séance, j'ai justement pointé des traces de fétichisation du national comme principal cadre de réponse aux problèmes économiques et sociaux actuels et corrélativement de dévalorisation du mondial et de l'européen par des intellectuels critiques à gauche, et cela dans un contexte particulier de montée des nationalismes xénophobes. Ces intellectuels critiques, tout à fait intéressants par ailleurs, Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, Cédric Durand et François Ruffin, n'ont rien à voir avec l'extrême droite, mais je les ai traités comme, j'ai dit, des désarmeurs de la gauche, peu soucieux d'une éthique de la responsabilité, pour reprendre une expression au sociologue Max Weber. Éthique de responsabilité, c'est-à-dire qui se soucie des effets de ses analyses et de ses discours par rapport au contexte, et donc par rapport au péril du contexte présent. Voilà où on en était, c'est pour ça que je traiterai peu du rapport national-mondial, bien que ce soit un thème qui soit abordé par les différents auteurs dont je vais parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais parler d'abord de deux des bricoleurs du néoconservatisme à tonalité xénophobe, qui en constituent, on pourrait dire, deux pôles. Alain Soral pour le pôle antisémite, à l'aura de rebelles dans l'underground d'Internet, et Éric Zemmour pour le pôle au dérapage islamophobe et négrophobe, à l'aura de rebelles, cette fois-ci dans les médias dominants. Puis j'aborderai deux désarmeurs à gauche par rapport à ce néoconservatisme, qui contribue d'une certaine façon à brouiller les repères par certaines de leurs analyses, Laurent Bouvet pour la galaxie autour du Parti Socialiste et Jean-Claude Michéa pour la galaxie des gauches critiques et radicales, même si Michéa récuse l'expression « gauche ». Alors, il faut bien préciser ici, certains ont pu croire une identité à cause du titre, je rejette clairement l'amalgame entre d'un côté le couple, disons, conflictuel Soral-Zemmour, et le couple Bouvet-Michéa. Si les deux couples sont critiqués, on verra, ce n'est pas au même titre. Et si des passages sont passés entre eux, ce ne sont pas des relations d'identité ou de collusion, mais des relations indirectes et beaucoup plus complexes. Alors, les deux auteurs néoconservateurs à tonalité xénophobe que j'ai retenus sont des exemples particulièrement visibles aujourd'hui d'une humeur idéologique plus large dans une galaxie en cours de constitution. S'ils sont plus connus, il ne faut surtout pas en faire des sortes de diémurges intellectuels. Ce sont plutôt, je dirais, des marionnettes d'une série de préjugés de lieux communs qui émergent ou qui réémergent dans la période, plutôt que des créateurs à proprement parler. Le contenu de leurs écrits apparaît assez médiocre par rapport aux critères du travail intellectuel aujourd'hui en philosophie et en sciences sociales à l'université. On a plutôt affaire à un bricolage de lieux communs et une certaine, même une grande désinvolture, à la fois dans le rapport aux faits observables, le travail empirique réclamé par les sciences sociales, comme par rapport à la solidité des raisonnements et des arguments. Ce qui est amusant de ce point de vue ou paradoxal, c'est une des figures les plus honnies de ces deux protagonistes, comme plus largement de la galaxie néoconservatrice xénophobe, c'est notre Bernard-Henri Lévy national, lui-même largement reconnu dans les milieux universitaires pour le vide de sa pensée. Or, avec Soral et Zemmour, qui sont pourtant se présentent comme des opposés de BHL, on a affaire aussi à des exemples de la BHLisation actuelle de la pensée, au sens de la dégradation des critères intellectuels en jeu. Mais il faut noter une différence entre Soral, Zemmour et BHL. Si BHL développe une pensée évanescente à partir d'une base humaniste de référence aux droits de l'homme, Soral et Zemmour le font aussi, une pensée évanescente, mais en prenant appui sur des provocations et des transgressions avec l'abject, on y reviendra. On pourrait dire que Soral et Zemmour, comme d'une certaine façon BHL, cette dégradation des critères du travail intellectuel, c'est un peu comme dans un sitcom télévisé, mais avec moins de personnages et de complications dans leur rapport que dans Plus belle la vie. En fait, c'est nettement moins intéressant que Plus belle la vie, Soral, Zemmour, BHL. On en revient toujours les mêmes personnages, pour les uns les francs-maçons et les juifs, pour les autres les musulmans et les noirs, pour les deux les homosexuels et les femmes, etc. Mais disons, le nombre de personnages est assez limité, leurs relations sont assez peu complexes. Pour ceux qui suivent Plus belle la vie, c'est beaucoup plus intéressant à suivre, disons, dans la complication. Du côté des ce que j'appelle des désarmeurs ou des brouilleurs, comme Bouvet et Michéa, ce sont aussi que deux cas dans un processus plus large, mais souvent beaucoup plus larvé aussi. Donc j'ai essayé de prendre des cas à chaque fois plus significatifs, plus explicites. On va retrouver plus ou moins chez les quatre auteurs des tendances que j'ai déjà pointées précédemment dans mes cours de l'an dernier, dans mon livre de 2012, « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?» des tendances sont des impensés de la gauche, mais aussi très présents à droite, que sont l'essentialisme, je vais y revenir, le conspirationnisme et la diabolisation des médias. On ne les retrouvera pas toujours ensemble chez les quatre auteurs retenus. On repérera les trois chez Soral. Chez Zemmour, le conspirationnisme apparaît moins net, plus ponctuel. Quant à nos deux désarmeurs brouilleurs à gauche, la tendance est socialiste, essentialiste et nette, associé chez Michéa à la diabolisation des médias, pas du tout chez Bouvet. Alors, je vais rappeler peut-être rapidement ce que j'appelle essentialisme, conspirationnisme et diabolisation des médias, puisqu'on va les voir dans l'analyse d'une série de discours. Essentialisme, donc, c'est de voir le monde à travers des essences, on peut dire aussi des substances, c'est-à-dire des entités homogènes, durables, de manière, disons, insensible à la diversité, dans la logique sociale et historique, comme insensible aux contradictions des phénomènes. Hein. On va avoir l'islam comme un bloc, les juifs comme un bloc, etc., etc. Bon. L'empire comme un bloc. Donc on a le monde vu à travers des essences, c'est-à-dire des réalités, des ensembles compacts, homogènes, sans contradiction, sans diversité. Cet essentialisme est une modalité puissante critiquée depuis longtemps en philosophie et en sciences sociales du manichéisme, avec souvent la mise en scène d'essences négatives et d'essences positives qui leur font face. Voilà pour le premier, la première tendance. Une deuxième tendance, le conspirationnisme. On parle aussi de théorie du complot. Ici, il faut distinguer ce qu'on appelle théorie du complot et conspirationnisme du simple mot complot. Une théorie du complot, c'est faire de manipulations cachées et conscientes par des individus et des groupes l'élément principal d'explication, soit de l'histoire humaine en général, soit d'un événement en particulier. Donc ça veut dire que cette manipulation cachée est le facteur principal d'un événement ou de l'histoire humaine en général. Or, le plus souvent, pour les travaux des historiens et des chercheurs en sciences sociales aujourd'hui, il peut tout à fait exister des complots, c'est-à-dire ça ne remet pas en cause l'idée de complot. Il y a des complots, c'est-à-dire des manipulations cachées dans l'histoire ou dans les événements. Mais ce qui est mis en cause par les chercheurs en histoire et par les chercheurs en sciences sociales, ce sont les théories du complot qui mettent principalement l'accent sur les complots pour expliquer les événements et l'histoire en général. Donc qui mettent principalement l'accent sur des dimensions à la fois intentionnelles et cachées. Ça apparaît largement pour la plupart des travaux en sciences sociales et en philosophie aujourd'hui, une vision erronée des choses. Les explications en histoire et en sciences sociales sont en général, on dit, plurifactorielles ou pluridimensionnelles, c'est-à-dire il y a toujours plusieurs facteurs qui se combinent pour expliquer un événement. Et les éléments intentionnels, hein, par exemple une manipulation consciente, sont souvent enveloppés à la fois par des dimensions structurelles, par exemple des rapports entre les classes, des rapports entre les races, des rapports entre les genres, etc., des structures sociales, et enveloppés aussi plus largement par des dimensions inintentionnelles liées à la dynamique de l'histoire et qui ne sont contrôlées par aucun des protagonistes. Donc c'est en ce sens-là que les sciences sociales et l'histoire récusent les théories du complot, mais peuvent faire appel à des complots comme un élément d'explication. Troisième impensé, problème, la diabolisation des médias. La diabolisation des médias, c'est la diffusion large d'une forme manichéenne de la critique sociale, notamment sur Internet, autour d'une explication fétiche, dès qu'il y a un problème, c'est la faute aux médias. Avec souvent, pas toujours, mais souvent des parfums, disons, conspirationnistes, on rejoint le précédent, de manipulation consciente et cachée des choses. Dans ce type de rhétorique routinière, il suffit que l'on mette une idée à côté des médias dominants pour qu'elle soit suspecte, indépendamment de la boussole éthique et politique qu'on utilise pour savoir si cette idée est bonne ou mauvaise. C'est la proximité avec les médias dominants qui l'a fait mauvaise. La critique des médias est pourtant nécessaire à la critique sociale aujourd'hui, mais pas nécessairement sous cette forme manichéenne et simplificatrice. Il existe ainsi des critiques beaucoup plus compliquées et rigoureuses des médias, comme celle, la critique du champ journalistique avancée par Pierre Bourdieu, ou au sein de ce qu'on appelle les cultural studies, celle plus marxiste du britannique Stuart Hall, d'ailleurs récemment décédé. Voilà trois éléments qu'on va retrouver plus ou moins, je l'ai dit, essentialisme, conspirationnisme, diabolisation des médias comme un ingrédient transversal, on peut dire, de ces différents discours. Alors, les processus analysés sont en cours et donc mes analyses sont largement hypothétiques hein, puisque les choses sont en train de se faire. Donc c'est une dimension, une faiblesse, disons, inéluctable quand on se confronte intellectuellement à ce qu'on appelle l'actualité, au bruissement, aux brumes aussi de l'actualité. Premier auteur, premier pôle, on va dire, Alain Soral, donc ce que j'appellerais, pour commencer, un national-socialiste, antisémite et nostalgique du nazisme. Alain Soral est né Bonnet de Soral en 1958. Il aurait été membre du Parti communiste 7 ans dans les années 90. et membre du comité central du Front National entre novembre 2007 et février 2009, moment de son départ du FN. Mais il demeure proche de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, beaucoup plus critique à l'égard de Marine Le Pen. Il rencontre Dieudonné en 2004 et il est considéré comme un de ses principaux inspirateurs intellectuels. Ils participeront ensemble à la liste dite antisioniste Euro-Palestine en 2004 pour les européennes. Il est condamné une première fois en 2007 pour diffamation et incitation à la haine raciale, en mai 2007. À cause de son parcours militant, on inclut souvent Soral dans la galaxie des rouges-bruns. En juin 2007, il crée le mouvement et le site Égalité et Réconciliation, dont le slogan est « Gauche du travail, droite des valeurs ». Dans un livre d'entretien avec l'éditeur et homme de télévision de gauche Éric Nolot en 2013, qui est intitulé « Dialogue désaccordé », il se définit comme national-socialiste français. Alors, comment présenter un panorama synthétique du kaléidoscope des discours et des écrits de Soral? Je vais passer en revue une série de points qui émergent au-delà des choses qui varient en fonction des circonstances, en m'appuyant principalement sur ces trois derniers livres, hein, « Comprendre l'Empire »,« Chronique d'avant-guerre » et « Dialogue désaccordé ». Je vais suivre une série de points successivement qui peuvent avoir des connexions, plus ou moins, avec aussi des tensions, des contradictions. Sans doute l'élément le plus important, le plus prégnant, le plus répétitif est l'antisémitisme. Dans « Dialogue désaccordé », il écrit « Je combats le suprématisme juif, cette vision tribale et dominatrice, cet esprit juif qui domine l'époque et la vilie. » Dans « Comprendre l'Empire », livre donc de 2011, il caractérise le communisme comme une authentique idéologie judéo-chrétienne. Il va préciser, parce que la part chrétienne c'est la bonne part du communisme, la part juive c'est la mauvaise. Bon. Il précise « Juive en haut pour la volonté de domination, chrétienne en bas pour l'espoir du partage ». Cet antisémitisme est souvent associé dans une thématique classique de l'extrême droite, hein, ça c'est assez traditionnel, au pouvoir occulte, et particulièrement au pouvoir occulte ancien des francs-maçons. Juifs et francs-maçons sont fortement associés chez Soral, et leur pouvoir occulte dissocié ou associé. Apparaît aussi de temps en temps une nostalgie vis-à-vis du nazisme, par exemple dans un passage de « Comprendre l'Empire » où il va glorifier, je cite, l'ordre noir de la SS cher à Heinrich Himmler, donc, qui était pour lui une tentative de juguler le pouvoir de l'argent. Cette maison d'édition Contre-Culture a aussi publié des classiques de l'antisémitisme, comme « La France juive » d'Édouard Drumont de 1886. Drumont fonde en 1890 en France la Ligue nationale antisémitique de France et deviendra une des principales figures de l'antisémitisme lors de l'affaire Dreyfus. Ce livre et d'autres ont été très récemment, il y a quelques semaines ou quelques jours même, interdits à la vente suite à une plainte de la LICRA. Donc on ne peut plus les trouver sur le site Égalité et Réconciliation. Premier élément donc structurant cet antisémitisme avec des formes de nostalgie vis-à-vis du nazisme. Bon. Deuxième élément important, le conspirationnisme est aussi proliférant. Voilà, je vais prendre des expressions privilégiées par Soral dans ses différents livres, notamment « Comprendre l'Empire », mensonge, occulte, pouvoir occulte, manipulation. En fait, mensonge, occulte, pouvoir occulte et manipulation, c'est sans doute les termes qui sont les plus répétés dans l'ensemble de l'ouvrage. Puis ensuite, le cachet, la trahison, la duplicité, le double langage, la dissimulation, la collusion, la propagande médiatique, le desservelage, etc. Et puis un grand nombre de complots sont évoqués, qui expliqueraient l'histoire, entre autres mai 68, ça c'est un complot qu'on n'avait pas souvent, mai 68 serait un complot sioniste pour évincer De Gaulle via le juif Cohn-Bendit, c'est un complot qui habituellement est peu diffusé dans les théories conspirationnistes. Bon, bien sûr le 11 septembre 2001 qui, je cite, implique les services américains et israéliens, ou encore ce qui est appelé l'arnaque du réchauffement climatique, qui est aussi un complot, ou encore l'arnaque du vaccin H1N1, ou encore l'affaire Mera, qui est présentée, je cite, comme dans les faits une opération conjointe franco-israélienne, des services secrets français et israéliens, d'après Soral. Il va ramasser d'ailleurs à un moment l'ensemble de ces complots, en le reliant au premier point sur l'antisémitisme. Nuremberg, puisque c'est un complot aussi, la mort de Kennedy, c'est aussi un complot sioniste, hein, d'après lui, l'éviction du général de Gaulle par mai 68, le 11 septembre, etc., sujets qui renvoient tous à la domination impériale, américano-sioniste, judéo-protestante. Bon. Parce que tous ces complots sont liés quand même à une matrice principale. Bon. Donc, deuxième caractéristique, le conspirationnisme. Troisième caractéristique, la catégorie importante de système, qui est en association avec le conspirationnisme. Ce système, c'est quelque chose d'omniprésent et d'omniscient. Le système, c'est quelque chose qui contrôle tout, hein, en dehors de quelques rebelles comme Soral qui le combattent vraiment. La plupart des autres sont des faux critiques qui seraient, comme il dit, des collabos du système. La plupart de ceux qui prétendent être critiques sont des collabos du système. Cette notion de système est à géométrie variable. Parfois, c'est le capitalisme, comme logique structurelle qui est visée. Là, il va faire référence à Marx. Mais c'est emboîté aussi, en quelque sorte, à quelque chose qui serait derrière le capitalisme, comme quelque chose qui, d'une certaine façon, manipulerait le capitalisme ou l'orienterait. C'est le pouvoir occulte et millénaire des juifs et des francs-maçons. Le système bascule alors souvent des structures sociales impersonnelles, hein, c'est l'analyse du système par Marx comme capitalisme, à quelque chose de beaucoup plus personnel, puisque c'est la manipulation consciente dans l'ombre qui domine, par ce pouvoir occulte, disons, juif et franc-maçon. Le système, parfois, c'est aussi quelque chose de plus petit. Ce sont les manipulations médiatiques et la propagande médiatique, qui sont souvent prises pour cible par Soral. Cette notion exclusive et toute puissance de système, qui n'est jamais clairement définie, hein, mais qui, on sent qu'elle occupe l'ensemble, qu'elle contrôle l'ensemble, renvoie donc souvent à des manipulations conscientes et occultes et permet de se positionner comme le vrai critique, le vrai rebelle, le seul anti-système. Pour reprendre une figure aussi utilisée par Dieudonné. C'est le combat mis en scène entre le politiquement correct, qui dominerait le système, et le politiquement incorrect, qui serait les quelques rebelles qui résistent au système. Autre caractéristique, l'antiféminisme, machiste et viriliste. D'abord, le combat féministe, je cite, serait une croisade aujourd'hui contre le masculin. Puis, il affiche le fait qu'il faudrait... avancer aujourd'hui plus nettement l'affirmation de l'inégalité des sexes. Et dans cette inégalité des sexes, il y a une infériorité particulière, c'est l'infériorité des femmes sur les hommes sur le plan intellectuel. Je cite, cette idée de la volonté, de la capacité d'analyse liée aux besoins organiques, donc masculins, de pénétration. Donc la pensée serait essentiellement une activité à cause de la pénétration masculine, et c'est pour ça que les femmes seraient, disons, en dehors, en général, de la pensée. Et Soral ajoute, très peu de gens accèdent au concept, hein, le concept, la pensée, cela demande une virilité intellectuelle. Autre caractéristique de Soral, l'homophobie. Alors, il ne parle pas d'homosexuels, en général, il parle d'invertis, à l'ancienne, qui sont porteurs d'une sexualité déviante, et il établit alors différents liens entre homosexualité et pédophilie, entre homosexualité et zoophilie, entre homosexualité et inceste. Il parle aussi de l'agressivité anti-hétérosexuelle aujourd'hui. Autre caractéristique dans ce kaléidoscope, c'est la valorisation de la nation et de la France comme cadre politique nécessaire qui est valorisé contre tout ce qui est mondial. Tout ce qui est mondial et négatif, c'est un peu ce que j'avais commencé à dire la fois dernière. Donc on a affaire à un nationalisme assez classique et à cette essentialisation positive de la nation et à l'essentialisation négative du monde est associée la figure du peuple. Le peuple, c'est aussi quelque chose d'homogène, de nécessairement national, et dont Soral serait le porte-parole le plus authentique. Un autre aspect encore de ces analyses, c'est l'opposition entre le social et le sociétal, le social dont il se fait le porte-parole, le sociétal qu'il combat comme une arnaque du système, et entre la gauche sociale, pour lui la vraie gauche, dont il se réclame aussi, parce que c'est la partie gauche de son, de sa revendication, et la gauche sociétale, donc, qu'il récuse, qu'il combat. Et accroché à ce couple social-sociétal, la défense du social contre le sociétal, il défend le thème de l'égalité contre celui de la lutte contre les discriminations. C'est des choses qu'on reverra chez d'autres. Le sociétal et la lutte contre les discriminations est alors porté par une des figures les plus honnies au sein de la galaxie néoconservatrice. Bien que sa consistance sociologique soit faible, ce sont les bobos de gauche, bon, qui sont l'élément principal critiqué, et qui porteraient le sociétal et la lutte contre les discriminations. Ces bobos de gauche est une notion, elle aussi, à géométrie variable, puisque ses premiers usages renvoient plutôt à des fractions des classes supérieures, de la haute bourgeoisie, mais de plus en plus est utilisé pour viser des secteurs des couches moyennes salariées, dont notamment les enseignants et les travailleurs sociaux. Donc le concept de bobo, la notion de bobo est de moins en moins utilisée pour viser des bourgeois, des classes dominantes, mais de plus en plus pour viser des fractions des couches moyennes salariées associées à la gauche, comme, disons, les enseignants, les travailleurs sociaux ou plus largement les agents des services publics. Donc c'est un élargissement de la notion de bobo. Les bobos sociétaux et antiracistes, donc c'est l'ennemi, se présente comme une des figures les plus stigmatisées dans cette littérature. Cette stigmatisation rentre dans le cadre de la dénonciation de ce qu'il appelle le libéralisme libertaire, c'est-à-dire l'alliance aujourd'hui entre le néolibéralisme économique et le thème de la liberté des mœurs. Ce libéralisme libertaire constituerait une des caractéristiques centrales de la phase actuelle du capitalisme pour lui. D'où le combat contre les bobos, disons, sociétaux et antiracistes de gauche. Voyons maintenant un peu ces modes d'argumentation. Ils sont peu élaborés, mais ils jouent beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le name-dropping, c'est-à-dire le fait de citer beaucoup de noms. Il y a des centaines de noms d'auteurs qui sont cités, souvent au moins une dizaine par page, d'auteurs, pour appuyer sa démonstration en positif, sans que les thèses de ces auteurs ne soient élaborées ou présentées ou articulées. Souvent, ce sont des auteurs contradictoires, et donc il n'y a pas le travail pour les articuler. Donc on a toute une série d'auteurs cités en cascade à l'appui de ces démonstrations, en développant rarement leurs pensées, en ne travaillant pas leurs articulations ni leurs incompatibilités. Dans ces références positives, où il y a aussi bien des penseurs d'extrême droite que situés à gauche, Marx, Proudhon, Bakounine, jusqu'à Michéa, sont des auteurs positifs, par certains côtés, chez Soral. Marx est un peu ambigu parce qu'il y a son côté juif qui ne va pas trop. Donc c'est ambivalent sur Marx. Bon. En dehors du name dropping, dans ses modes d'argumentation, il joue beaucoup de la provocation. C'est un élément important. Et donc il va faire des phrases qui sont des formes de provocation ironique qui flirtent toujours avec les limites. Je cite par exemple, dans Comprendre l'Empire, une flopée de sociotraîtres dont énumérer les noms évoquerait immédiatement la liste de Schindler, ou encore parce que les faibles en France, les maudits, les persécutés depuis 1945, ce sont Le Pen et Forisson, pas les PD sponsorisés par Pierre Berger ou le NPA et autres groupuscules gaucho-trotskistes soutenus par la CIA. Ça fait beaucoup. Alors, on doit noter chez lui une tension dans les modes de raisonnement entre deux éléments, le doute illimité et la certitude absolue. Il y a un basculement sans arrêt entre les deux dimensions, qui est une tendance générale aussi des théories conspirationnistes plus généralement. D'abord, le lapande d'un doute illimité que un collègue, le politiste Fabien Jobard, a justement qualifié de relativisme hyperbolique. C'est assez juste dans un article de Mediapart qui s'appelle de 22 janvier 2014 qui s'appelle La troublante séduction de Dieudonné. Donc, exemple de ce relativisme hyperbolique, par exemple, dès Comprendre l'Empire, l'histoire nous démontrant que derrière la prétention à la scientificité des sciences humaines, sociologie, économie, etc., se cache toujours l'idéologie des vainqueurs. Donc il y a déjà un point de départ, c'est que tous les savoirs constitués, en fait, sont faux. Et il faut les douter puisque ce sont simplement l'idéologie des vainqueurs. là, l'ensemble de travaux de sciences humaines. Ce qui est une attitude donc courante par rapport à ce que Soral et les autres conspirationnels coristes appellent en général les versions officielles. Mais là, la version officielle, ça va jusqu'à l'ensemble des savoirs produits par les sciences humaines. Ça, c'est la pente d'un doute illimité. Mais en même temps, il y a un deuxième pan qui est contraire, en fait, c'est le fait d'asséner des certitudes sur le mode de l'évidence, sur l'histoire de l'humanité, hein, sur une très longue durée, hein, puisque ce complot qui domine le monde franc-maçon et juif est assez ancien, bon. Notamment à travers donc ces manœuvres occultes. Et là, il n'y a pas de doute. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, dans le dialogue des accordés, il dit « J'ai depuis longtemps dépassé le stade du doute pour passer sur ces questions dans le domaine de l'érudition. » Donc, une tension courante dans le discours conspirationniste entre le doute illimité et la certitude absolue, en fait. C'est-à-dire les deux pôles, d'ailleurs, que remettraient aujourd'hui en cause les sciences. C'est-à-dire que les sciences sont ni du côté du doute illimité, ni du côté des certitudes absolues aujourd'hui. Enfin, il y a une autre tension qui travaille les bricolages intellectuels de Soral. Ça concerne l'islam. D'abord, il y a ce qu'il appelle la critique des communautés et du communautarisme au nom de la nation. Donc, il est contre les communautés et le communautarisme. On verra qu'une des différences avec Zemmour, c'est que quand il entend communauté, alors comme Zemmour, il entend homosexuel, mais il entend surtout juif, tandis que Zemmour, quand il entend communauté, il entend surtout musulman. Donc il va critiquer les communautés et le communautarisme, et aussi il fallait faire la critique de l'immigrationnisme, hein, la déferlante supposée de l'immigration dans les pays européens. Il va faire notamment la critique du regroupement familial dans les années 70, qui aurait visé, dit-il, à détruire la cohésion ethno-culturelle de la France. Donc là, on a l'immigration comme poison qui a, disons, déstabilisé la pureté de la nation française. Bon. C'est le premier point. Mais dans un deuxième temps, il va valoriser l'islam et il va s'adresser principalement aux musulmans. Bon, et c'est ça une partie des contradictions de son discours. C'est ce qu'il appelle la valorisation d'un islam de résistance à l'Empire, cohérent, articulé, alors c'est mondial, articulé autour de la République islamique d'Iran, comprenant aussi le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien. Donc ça, c'est ses références. Comme résistance à l'Empire, c'est l'islam, comme élément important, à travers l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Mais aussi, un élément important de son travail, c'est l'appel aux musulmans de France sur la figure des musulmans patriotes. Donc son grand thème, c'est l'appel aux musulmans patriotes contre ce qu'il appelle les islamo-racailles, bon, qui seraient les délinquants, hein, dans les quartiers populaires. Et il appelle donc à une alliance avec ces musulmans patriotes, notamment à plusieurs reprises des chrétiens. Implicitement, on suppose que cette alliance des chrétiens et des musulmans patriotes, c'est contre les juifs, puisque c'est le secteur, disons, stigmatisé dans l'ensemble, sur une base donc nationaliste anti-impérielle, donc plutôt une alliance de catholiques intégristes et de musulmans patriotes sur cette base nationaliste et anti-impérielle. C'est ce qu'il appelle, disons, la réconciliation, hein, dans le titre réconciliation de son site, c'est la réconciliation. Dans cette perspective, il va critiquer l'islamophobie. Donc il y a une tension entre sa critique de l'immigration, des communautés, etc., et son appel à l'islam, hein, comme communauté. Bon. Son modèle, c'est ce qui s'est fait il y a quelques années au Liban, dans l'alliance entre le Hezbollah et une fraction des chrétiens libanais. Voilà, j'étais un peu long sur Soral, mais sans doute c'est le moins visible pour ceux qui explorent peu l'underground d'Internet, et je serai un peu plus court sur les autres, mais en fait on va retrouver des interférences, on va voir. Hein, c'est pour ça qu'il est légitime de parler d'une sorte de galaxie avec des pôles différents, avec des tensions et des oppositions d'une galaxie néoconservatrice. J'ai intitulé le point sur Zemmour ou les dérapages islamophobes et négrophobes sous dépendance d'un machisme homophobe. Alors, Éric Zemmour est né donc en août 58 dans une famille de culture juive. Il a fait Sciences Po au Paris. Il est journaliste multicarte, chroniqueur hebdomadaire au Figaro, sur RTL, sur iTélé et sur Paris Première, où sur Paris Première, il poursuit sa collaboration avec Éric Nolot, qu'il avait commencé donc sur France 2 dans l'émission de Laurent Ruquier. À noter aussi que Zemmour aussi a été condamné en février 2011 pour provocation à la discrimination raciale. Je vais m'arrêter ici principalement, et puis j'ajouterai quelques points adjacents, principalement sur une de ses chroniques du Figaro, pour voir comment se mettent en place des thèmes proches de ceux de Soral avec des différences. La chronique que je retiens de Zemmour est celle du 5 décembre 2013 qui s'appelle « Petit blanc et bonne conscience ». Il y écrit notamment, je cite, « La misère sexuelle des jeunes prolétaires blancs qui, éduqués dans l'univers du féminisme occidental, ne peuvent rivaliser avec la virilité ostentatoire de leurs concurrents noirs ou arabes, qui séduisent nombre de jeunes femmes blanches, blondes de préférence. » Il exprime ainsi l'antique attrait des femmes pour le mâle dominant, le vainqueur, à l'instar de ces Françaises qui couchèrent pendant la Seconde Guerre mondiale avec des soldats allemands, puis américains. Bref, il est remonté, disons, à une des origines anthropologiques supposées de l'humanité, c'est-à-dire la quête par les femmes en général de l'homme du mâle dominant, qui aurait expliqué donc le fait qu'elle couchait avec les Allemands pendant l'occupation, avec les Américains à la libération, et c'est pour ça qu'elle voudrait aujourd'hui, surtout les blondes, mais il ne donne pas de statistiques, coucher avec les Noirs et les Arabes. Alors, Zemmour ici est effectivement nettement essentialiste, sait quel est l'essence des femmes et ce qu'il appelle aussi, à un autre moment de la chronique, l'immigration arabo-africaine, et de l'alliance de ces deux essences, alliance contre les petits blancs d'aujourd'hui. Donc on voit bien que chez Zemmour, l'antiféminisme machiste englobe donc les tonalités négrophobes et islamophobes. Tonalité islamophobe qu'on retrouve à un autre moment de la chronique, l'instauration, où il parle de l'instauration d'un mode de vie étranger sur le territoire français, forçant les petits blancs à se soumettre jusqu'à la conversion à l'islam ou à se démettre, c'est-à-dire fuir dans le fameux périurbain. Comme Soral, l'antiracisme de gauche est une cible principale. Il parle notamment toujours de cette chronique des leçons de morale des bourgeois antiracistes qui ont non seulement les moyens de se protéger, eux et leurs enfants, des ravages du multiculturalisme. Dans son émission « Ça se dispute » sur iTélé le 22 novembre 2013, Zemmour met d'ailleurs en cause Christiane Taubira, en tant que, je cite, « icône d'une bobocratie féministo-antiraciste ». Bobocratie féministo-antiraciste qui, je cite encore, « mène la guerre au peuple français ». D'ailleurs, il laisse entendre que les insultes racistes contre Christiane Taubira seraient une manipulation de Christiane Taubira elle-même, ou en tout cas montée en épingle pour servir ses intérêts politiciens. Donc c'est la petite pointe conspirationniste qu'on a, c'est nettement moins important que chez Soral, mais on en a un peu seulement, du conspirationnisme. Zemmour se présente donc lui également comme un porte-parole authentique du vrai peuple essentialisé, ce peuple qui est blanc ici, masculin et hétérosexuel. Hétérosexuel parce que l'homophobie est également présente, alors là dans une autre chronique du 12 décembre 2013, intitulée « La morale pour tous » qui est consacrée à la destruction de l'école républicaine. Et bien avant... l'histoire de la théorie des genres et du retrait de l'école, il avait avancé à peu près le même thème, puisque le principal élément de destruction de l'école républicaine, c'est l'homosexualité. L'école devint le lieu d'où on menait la guerre à l'homme blanc hétérosexuel, ou encore le lieu de la propagande homosexuelle. Donc on est en décembre 2013, bien avant les affaires récentes. Donc ces thèmes circulent dans différentes sphères. Zemmour critique aussi comme Soral ce qui est nommé communautarisme et communauté. Mais chez Zemmour, ça vise, comme chez Soral, les homosexuels, mais homosexuels, il ajoute les juifs, les musulmans, contrairement à Soral qui lui ajoute les juifs. Dans cette perspective, il va défendre une vision qu'on pourrait appeler intégriste de la laïcité, moi que j'appelle laïcarde, contre les musulmans, alors que Soral combat la notion de laïcité. C'est une autre divergence entre Soral et Zemmour. Zemmour défend la laïcité contre les musulmans en général, et pour Soral, la laïcité est une manip du système qui est orientée à la fois contre les catholiques et contre les musulmans, par rapport auxquels il souhaite une alliance, justement, contre la laïcité. Bon. Là, il y a une divergence. Alors, bien que, à la différence de Soral, il est très présent dans les médias dominants, pas seulement sur Internet, Zemmour serait aussi, d'après lui, un vrai rebelle opposé au politiquement correct, et donc du côté du politiquement incorrect supposé marginalisé. Voilà pour le pan Zemmour. C'est-à-dire, on a vu deux exemples de deux pôles de cet espace, disons, ou cette galaxie néoconservatrice. Un pôle nettement antisémite, un pôle qui utilise régulièrement des dérapages islamophobes et négrophobes. Alors, je vais faire un récapitulatif maintenant des lieux communs néoconservateurs émergents à partir de cette première approche. Cette humeur idéologique donc que j'ai appelée néoconservatrice, à tonalité xénophobe, machiste, homophobe et nationaliste, connaît donc des thèmes transversaux en voie de stabilisation. D'abord, un nationalisme diabolisant le mondial. Le monde, c'est le mal, et la nation, c'est le bien. Des tonalités xénophobes, mais des xénophobies au pluriel, car on a affaire à des xénophobies concurrentes. Antisémitisme versus islamophobie et négrophobie. C'est un des points de tension, disons, de la galaxie néoconservatrice. Une critique commune du communautarisme, mais avec un contenu un peu différent, puisque pour l'un, ça inclut les homosexuels et les juifs, pour l'autre, ça inclut les homosexuels et les musulmans, le communautarisme. On a une essentialisation du peuple opposée aux ennemis qui sont les bobos de gauche. Et associé aux bobos de gauche, et l'opposition entre peuple et bobos de gauche, on a l'opposition du social et du sociétal, et de l'égalité de la lutte contre les discriminations. Ça, c'est commun. On a aussi commun entre ces différents corpus le machisme et l'homophobie. On a aussi commun l'opposition du politiquement incorrect qu'il représenterait contre le politiquement correct qui serait dominant dans les médias et qu'il combattrait. On a, et c'est moins net complètement, c'est moins développé chez Zemmour, on a aussi des vapeurs conspirationnistes plus ou moins avancées. Voilà donc une série de thèmes transversaux en voie de consolidation dans cette galaxie néoconservatrice. Donc, à mon sens, on aurait bien des analogies avec ce que Pierre Bourdieu, dans l'ontologie politique de Martin Heidegger, appelle ce discours confus, syncrétique, doté de sources innombrables qui jaillissent de toutes parts. Avec, au-delà des différences et des tensions réelles entre les discours, que Bourdieu appelle des innombrables rencontres thématiques et lexicologiques qui sont autant de renforcements mutuels. Je crois que c'est un élément important. Plutôt que de voir ça comme une forme de manipulation coordonnée, voir ces innombrables rencontres thématiques des thèmes lexicologiques des mots qui sont employés, parfois avec des sens un peu différents, qui sont autant de renforcements mutuels d'évidence de ces différents thèmes et de ces différents mots. Avec aussi, au-delà des différences et des tensions réelles, ce que Bourdieu appelle un accord affectif des fantasmes partagés. Non, un accord affectif des fantasmes partagés. Avec notamment la figure des adversaires pris pour cible et fantasmés dans la définition de soi. Alors il y a des adversaires communs, hein, comme les homosexuels, les femmes, les communautés, les bobos de gauche antiracistes, etc. Et puis il y a des adversaires spécifiques, hein, soit les juifs, soit les musulmans et les noirs. Ce qui est important à noter dans la stabilisation de, à la fois lexicale et thématique de ces thèmes, c'est que peut-être que les bricoleurs d'aujourd'hui, hein, j'en ai pris deux les plus visibles et les plus systématiques, les bricoleurs d'aujourd'hui comme Soral et Zemmour seront sans doute peut-être oubliés rapidement dans quelques mois, dans quelques années. Mais l'important ici n'est pas le petit producteur, mais la stabilisation d'un ensemble de thèmes et de lexiques, hein, qui pourraient être repris par d'autres après. Bon. Donc peut-être qu'ils seront oubliés, c'est pas l'important, mais l'important est la stabilisation dans les espaces publics, à la fois dans les espaces publics médiatiques et dans les espaces publics d'Internet, hein, qui sont plus underground, mais qui sont aussi des espaces publics, Donc la stabilisation de schémas transversaux à géométrie variable, à sens un peu différent, mais qui sont dotés entre eux d'une série d'interférences. Il y a davantage une série d'interférences entre eux qu'une cohérence complète intellectuelle, hein, comme souvent les phénomènes idéologiques. Donc j'ai examiné donc ici les lieux publics de production de ce néoconservatrisme. Cela ne nous dit rien de la réception dans la population. On peut supposer que des parties significatives de la population ne connaissent pas encore vraiment ces auteurs, même s'ils peuvent rencontrer, dans leur vie quotidienne, des formes plus diffuses et larvées des thèmes qui sont traités par ces auteurs. Cela appellera en tout cas une étude de réception du type des sciences sociales qui n'inférerait pas automatiquement le fait que ces messages sont diffusés et sont produits, le fait qu'il y a une adhésion. Hein, il faudrait voir les modalités d'utilisation quand il y a utilisation de ces thèmes par différentes catégories de la population. Donc ici, j'ai fait quelque chose de limité qui est l'analyse des lieux publics de production de ce nouveau conservatisme. On peut toutefois signaler, et pour montrer sans doute le péril de la situation, des conditions qui peuvent favoriser aujourd'hui la réception, hein, qui sont des facteurs plutôt qui favorisent la réception de ce type de discours. Donc, premier facteur qui favorise la réception de ce type de discours, les difficultés économiques et sociales rencontrées par des fractions importantes de la population, en période de fort chômage de masse et de précarisation de l'emploi, premier facteur. Deuxième facteur est en lien avec le premier, c'est important, la dévalorisation des forces politiques classiques, PS et UMP, ayant généré chacune des déceptions successives, en ayant porté chacune des orientations, disons, économiques et sociales néolibérales assez proches. C'est un facteur en lien avec le premier qui est important. Sans doute, lié à cet élément, sans doute, l'incapacité des gauches du PS à incarner une alternative, que ce soit l'échec du NPA ou les difficultés du Front de Gauche, tout ça joue aussi dans la plus grande réceptivité de ce type de discours. Autre facteur, l'installation d'un climat islamophobe en France à partir des premières affaires du voile qui s'accentue à partir du 11 septembre 2001. Sur ce plan, sans doute, les dirigeants militants et sympathisants de gauche ont souvent été pris par une vision fermée de la laïcité que j'appelle laïcarde, à l'opposé de ce que le sociologue Jean Bouvéreau appelle la laïcité ouverte, qui est davantage dans l'esprit de la loi de 1905. Tendance laïcarde qui, dans les 10-15 dernières années, a surtout été orientée contre l'islam en France. Cette islamophobie peut tout à la fois, ce climat islamophobe peut tout à la fois favoriser la réception des discours néoconservateurs islamophobes, dans ceux qui finissent par partager ces éléments islamophobes, mais aussi peut favoriser dans d'autres secteurs de la population qui se sentent discriminés par le discours islamophobe, au nom du deux poids deux mesures, peut favoriser la réception des discours de Soral et de Dieudonné. Autre facteur, la division des organisations antiracistes à partir du début des années 2000 entre deux pôles. Un pôle qui mettait en cause prioritairement l'antisémitisme avec la LICRA et SOS Racisme, et un pôle qui mettait prioritairement en cause l'islamophobie avec le MRAP à l'époque et les indigènes de la République. Donc une division du mouvement antiraciste qui a eu du mal à réarticuler la lutte contre les différentes xénophobies autour d'une exigence de commune humanité et qui donc n'a pas pu vraiment empêcher la dynamique actuelle de concurrence victimaire et de compétition des antiracismes et des racismes aujourd'hui, qui a débordé le mouvement antiraciste dans des secteurs beaucoup plus larges de la population. Mais ça a commencé dans les divisions au sein du mouvement antiraciste, disons au début des années 2000. Avec Nadia Benelal, on avait alerté sur cette situation à la veille d'une manifestation antiraciste en 2004, dans un texte du Monde qui s'appelait « Nous sommes tous des juifs musulmans » pour casser, disons, la compétition entre la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre l'antisémitisme. C'était le 13 octobre 2004 dans le Monde, mais c'est un appel qui a peu été entendu. Enfin, le dernier facteur qui favorise la réception de ce discours, c'est la mobilisation récente dans la rue des forces catholiques traditionnelles à partir de la discussion de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Mobilisation récente et répétée. Voilà donc une série de facteurs qui favorisent la réception, pour différentes raisons, de ce néoconservatisme montant. Alors, s'il faut être conscient des facteurs qui favorisent cette réception, il faut aussi prendre la mesure, disons, de l'autonomie symbolique de cette humeur idéologique néoconservatrice, une fois qu'elle a été tissée et consolidée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a existé, une fois qu'elle a été tissée, consolidée, qu'elle a été reprise par certains, elle a des effets et des dynamiques propres, par-delà les facteurs socio-économiques ou les facteurs politiques qui vont à un moment donné la favoriser. Et le risque, c'est qu'elle s'enracine d'une certaine façon, par-delà ces facteurs. Par exemple, on pourrait connaître une période de recul du chômage, pourtant cette thématique se serait enracinée, elle aurait sa vie propre d'une certaine façon, indépendamment des facteurs socio-économiques. Donc il ne faut pas voir simplement les facteurs comme les choses qui déterminent ce qui se passe, mais des choses qui favorisent ou pas. Et une fois que cette dynamique autonome a pris, de la consistance, elle peut avoir sa propre dynamique autonome, indépendamment des facteurs qui l'ont favorisée. Alors, après cette analyse, de ce bricolage néoconservateur, avec ces deux pôles, ces schémas transversaux qui se stabilisent, et ces éléments, ces facteurs qui contribuent à favoriser la réception de ce type de discours, je vais envisager maintenant deux types de critiques, ce que j'ai appelé les désarmeurs ou les embrouilleurs, c'est-à-dire des gens de gauche qui ne sont pas du tout dans la production du néoconservatisme xénophobe, mais qui, par certaines de son analyse, vont contribuer à brouiller les pistes et à désarmer la gauche. Alors, j'ai pris un auteur dans la galaxie du PS, qui est la force, électoralement dominante, et puis un auteur qui est plutôt situé à gauche du PS, considéré comme à gauche du PS, même s'il récuse le mot « gauche », mais c'est Michéa, mais il revendique le mot « socialisme ». Bon. Dans la galaxie du PS, Laurent Bouvet, ou le peuple essentialisé, menacé d'insécurité culturelle. Alors, Laurent Bouvet est né en 1968, il est professeur de sciences politiques, c'est un collègue. Il a jadis été membre pendant plusieurs années du Parti Socialiste, il a même été rédacteur en chef de la Revue Socialiste, la revue du Parti Socialiste, de 1998 à 2001. Il n'est plus membre du PS, mais il est toujours directeur de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès, qui est la fondation associée au Parti Socialiste. Donc il est dans la mouvance encore du Parti Socialiste. Il a été, dans les années 1990, le principal défenseur du social-libéralisme du ministre britannique Tony Blair, traducteur et défenseur, c'est-à-dire donc d'une alliance entre le néolibéralisme économique et la gauche. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses discours néo-conservateurs, puisqu'il a été un des protagonistes de la conversion de la gauche avec le néolibéralisme. C'est qu'entre-temps, il a changé et il a pris un courant inverse, sans vraiment expliquer ce changement, je dois dire. Enfin, je n'ai pas trouvé de trace d'explication nette de ce changement. Donc, il a depuis changé d'orientation et il a découvert une version essentialiste du peuple, il a découvert le peuple, contre le néolibéralisme qu'il promouvait antérieurement. Le livre marquant de ce tournant date de 2012 et est intitulé « Le sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme ». C'est sur cette base qu'il a participé à la constitution entre novembre 2011 et février 2013, d'un réseau autour du Parti Socialiste appelé la gauche populaire, sur le même modèle que la droite populaire. Ce réseau existe toujours au sein du PS, avec une série de parlementaires et de dirigeants nationaux du PS, mais les intellectuels extérieurs au PS comme Bouvet l'ont quitté autour de février 2013. Il y a une rupture entre le canal parlementaire de la gauche populaire, enracinant le PS, et le canal, universitaire. Ce qu'on peut dire à travers son livre et ses interventions dans la presse, c'est qu'il a produit récemment des analyses qui créent certaines interférences avec le néoconservatisme montant, sans la xénophobie explicite du néoconservatisme dont j'ai parlé, mais des interférences avec des thèmes de ces néoconservatismes. Et donc qui, selon moi, participent à désarmer la gauche. Dans son livre de 2012, il associe donc le néolibéralisme économique, dont il était un chantre avant, donc, à ce qu'il appelle l'impensée libérale de la gauche en matière culturelle et morale. Donc la gauche serait trop libérale dans les mœurs, dans la morale et dans la culture. Néolibéralisme économique, impensée libérale de la gauche en matière culturelle et morale, multiculturalisme, qui serait associé pour lui au néolibéralisme, et individualisme. Tout ça, ça serait le paquet négatif. Néolibéralisme, liberté des mœurs, multiculturalisme, individualisme. Et la gauche aurait, succombé à ce paquet. Bon. Et contre cette association de la gauche avec ces thèmes, il invite au contraire la gauche à revenir au peuple, qui est pensé plutôt comme un bloc de manière essentialiste. Le peuple, c'est pas un enjeu, c'est pas un pari, c'est pas un défi, c'est pas un ensemble contradictoire, c'est quelque chose qui est un bloc homogène aussi, on a un mode de pensée assez essentialiste. Ce bloc peuple serait principalement travaillé par des aspirations qui auraient été délaissées par la gauche. Je cite, le travail, bien sûr, mais aussi l'identité nationale, le modèle d'autorité sociale familiale, le sens de l'appartenance et de la protection collective. Donc, le peuple serait marqué principalement par ses valeurs. Le peuple serait principalement pour Bouvet marqué par des valeurs. En fait, le combat principal, ça ne serait pas un combat économique, ça serait un combat de valeurs. Le peuple serait marqué par ses valeurs. Or, la gauche a abandonné ses valeurs au profit donc du multiculturalisme, de la liberté des mœurs et du néolibéralisme qui serait associé. Donc, il aurait abandonné l'identité nationale, le travail, l'autorité familiale, etc. Donc la gauche aurait abandonné cette ancienne figure du peuple qui était la sienne avant 1981 et il aurait remplacé le peuple par qui ? Par un peuple de remplacement qui serait l'immigré. Bon, la gauche aurait fait de l'immigré le nouveau peuple valorisé. Alors ici je dois dire que les textes que traite du Parti Socialiste, que traite Laurent Bouvet, soit sur la question de l'individualisme, soit sur la question de l'immigré comme figure centrale de la gauche, sont pas probants, car je connais assez bien les textes dont ils parlent, et ces textes disent souvent des choses différentes. Bon. Sur la question de l'immigration, on ne peut pas s'empêcher de voir que depuis au moins une vingtaine d'années, l'immigré est plutôt une figure mise en cause, critiquée, réprimée par les politiques d'État, y compris quand le Parti Socialiste est au pouvoir. Et sur le plan de l'individualisme, le Parti Socialiste s'est jamais réclamé, d'ailleurs il a du mal à trouver le mot individualisme dans les textes ou individu, donc c'est lui qui en déduit que c'est de l'individualisme, et rarement réclamé, en général le Parti Socialiste va défendre la solidarité. Alors il n'a plus la notion de classe, c'est vrai, Bouvet a raison, il a perdu la notion de classe, mais à la place il va dire une notion vague de solidarité, mais c'est pas en général l'individu. Mais pour Bouvet, le peuple de remplacement de la gauche depuis 81, ça serait l'immigré, à la place de l'ancien peuple. Pour répondre à la montée de l'extrême droite, puisque pour Bouvet c'est un enjeu, la gauche devrait alors retrouver le sens du peuple, c'est le titre de la dernière partie. Donc le peuple d'avant la valorisation de l'immigré. Cela passe notamment, dit-il, par, je cite, « réinvestir de plein pied ces trois terrains, nation, république, laïcité ». Alors, Bouvet a complété ses analyses avec une autre notion après la sortie du livre, qui devrait d'ailleurs être le titre d'un prochain ouvrage, l'insécurité culturelle. C'était annoncé pour janvier, mais je crois que c'est reporté de plusieurs mois. Donc, l'insécurité culturelle. Il publie ainsi une tribune dans Le Monde le 24 avril 2012 intitulée « Comment la gauche gérera-t-elle l'insécurité culturelle révélée par le vote Marine Le Pen ?» L'insécurité culturelle, dans ce texte, ça serait, je cite, ce qui est vécu comme une menace pour l'identité nationale. Dans un entretien à l'hebdomadaire Marianne, quelques jours après, le 26 avril 2012, il précise le sens d'insécurité culturelle. Alors je cite, c'est un concept qui a largement été développé par le sociologue Alain Mergier et le géographe Christophe Gilouis. C'est faux, c'est pas vraiment développé comme concept, ça c'est pas vraiment un concept, non. C'est le fait pour des gens de se sentir menacés de manière diffuse. C'est un des problèmes du concept, qu'il est assez diffus. Ces citoyens ne craignent pas seulement la délocalisation, le fait de perdre leur emploi, leur pouvoir d'achat, ils voient aussi une dégradation de leur statut, de leur mode de vie en général, et ils l'attribuent aux autres. Alors, cette notion d'insécurité culturelle n'est pas sans effet après sur des secteurs plus directement politiques de la gauche. Par exemple, un des animateurs de la gauche populaire, délégué national chargé des élections et des études d'opinion au PS, François Calfon, expliquait ainsi au journal Le Monde qu'il s'agissait, je cite, « de lutter contre le dénigrement systématique d'une élite de gauche vis-à-vis du français moyen, petit blanc hétérosexuel, qui vit avec sa famille classique dans un pavillon avec voiture et télévision ». Donc on voit un effet, disons, indirect. Là, on s'avance un peu plus vers des dérapages contrôlés, pour l'instant xénophobes et homophobes, disons, en gros, on a l'impression que les petits blancs seraient, disons, menacés à la fois par les PD et par les musulmans. Voilà une première série de perturbations, de brouillages, d'interférences entre le discours néoconservateur et là, quelqu'un qui se situe dans la galaxie du Parti Socialiste. Et qui, à mon sens, désarme, disons, la gauche par rapport au climat néoconservateur. Le deuxième exemple concerne plus quelqu'un qui est situé plutôt à la gauche de la gauche, même s'il récuse maintenant le mot « gauche ». C'est ce que j'ai appelé Michéa ou les brouillages introduits par un socialiste anarchiste au penchant conservateur. Donc c'est quelque chose de compliqué. Donc Jean-Claude Michéa est un philosophe né en 1950, il est issu d'une famille communiste, il a été lui-même militant communiste jusqu'en 1976. Il a intégré depuis des ressources situationnistes et anarchistes dans son bagage intellectuel, et puis surtout les analyses de sa figure principale de référence, qui est l'écrivain britannique George Orwell. On pourrait alors parler aujourd'hui de lui comme un socialiste anarchiste, clairement anticapitaliste, mais doté, on va le voir, de certains penchants conservateurs. Alors, c'est quelqu'un dont on fait référence dans différents endroits, Michéa, puisque des militants du Front de Gauche et des anarchistes font référence positivement souvent à Michéa, mais aussi Marine Le Pen, Alain Soral, Éric Zemmour, pour qui il est une figure de référence aussi. Donc c'est quelqu'un qui est utilisé par toutes ces personnes. Alors, il faut noter qu'il y a des aspects tout à fait stimulants des travaux de Michéa, pour moi en tout cas, puisque dans certains livres, il interroge de manière critique la religion du progrès à gauche et se rapproche, disons, des courants de la décroissance, ou dans d'autres textes, il va explorer une politique alternative à partir de la vie ordinaire, ce que Orwell appelle la « common decency », ou encore « civilité populaire » ou « sens commun de la dignité » qui serait inscrite dans la vie populaire. Mais sur d'autres plans, Michéa contribue à désarmer la gauche et à introduire des brouillages idéologiques avec le néoconservatisme montant. C'est particulièrement le cas dans son dernier livre qui s'appelle « Les mystères de la gauche », sous-titré « De l'idéal des Lumières au triomphe du capitalisme absolu », donc un livre de 2013. Michéa, dans ce livre, dans d'autres qui le précèdent, a tendance à amalgamer différentes entités prises de manière essentialiste, on retrouve l'essentialisme, comme des blocs compacts. Il y a toute une série de notions qui vont être amalgamées. Le libéralisme économique, qui va être amalgamé au libéralisme politique, il ne va pas considérer que ce sont deux choses différentes, mais que c'est quelque chose qui est commun. Il va amalgamer ça aussi aux Lumières du XVIIIe siècle, qui est un élément négatif. Et il va associer ça au mot « gauche ». Bon, tout ça, c'est les éléments plutôt négatifs. Libéralisme économique, libéralisme politique, lumière et gauche, ce sont des termes associés, qui sont négatifs. Les termes positifs, c'est peuple, c'est ouvrier, c'est socialisme. Bon. C'est le thème de la phase dite libérale-libertaire du capitalisme, c'est les mêmes termes qu'on a vus chez Soral, qui amène aussi Michéa à choisir le social contre le sociétal. On a une démarche proche de Soral, et de choisir l'égalité contre la lutte contre les discriminations. Le sociétal et les luttes contre les discriminations étant pour lui associés au néo-capitalisme. Alors, quelle est la nouveauté par rapport au livre précédent du livre « Le mystère de la gauche » C'est l'hypothèse historique qui est assez peu étayée d'un point de vue historique. Elle tient en deux pages et elle fait référence à aucun historien qui travaille sur la question. c'est qu'il a, il pense avoir saisi l'origine du mal de la gauche. Bon. L'origine historique, le point d'origine, ça serait l'affaire Dreyfus. Pourquoi ça serait l'affaire Dreyfus ? Puisque l'affaire Dreyfus, ça serait le moment de l'alliance entre les socialistes et les républicains pour défendre Dreyfus. Et c'est là où les socialistes auraient commencé à être contaminés par le libéralisme politique, les Lumières, etc. et donc à peu à peu être absorbés par le capitalisme. Donc le point central serait, disons, cette affaire Dreyfus comme alliance des socialistes et des républicains. On pourrait dire, s'il ne le dit pas tel quel, mais que l'origine du mal, pour expliquer en fait pourquoi Hollande fait une politique sociale libérale, il faut remonter à l'affaire Dreyfus, en gros c'est ça qu'il dit. Et implicitement, la figure du mal, c'est Jaurès, hein, puisque c'est Jaurès l'alliance de la République et du socialisme. C'est lui qui théorise ça. C'est lui qui théorise l'alliance du marxisme et de la République, et qui est un des protagonistes, disons, dans l'affaire Dreyfus. C'est lui qui l'a théorisé. Il situe dans ce livre la naissance des mystifications de la gauche dans l'alliance des socialistes et des républicains au moment de l'affaire Dreyfus, alliance qui, de conjoncturelle, serait devenue, je cite, « un pacte d'intégration progressive du mouvement ouvrier socialiste dans la gauche bourgeoise et républicaine ». Et donc cette hypothèse historique est supposée éclairer les abandons sociaux-libéraux actuels de la gauche hollandaise au pouvoir. La politique de François Hollande serait, je cite, l'aboutissement logique d'un long processus historique dont la matrice se trouvait déjà inscrite dans le compromis technique négocié lors de l'affaire Dreyfus. Alors, ce que je dirais ici, c'est que, en fait, même s'il y a des éléments justes dans certains éléments de l'analyse de Michéa, c'est qu'il m'apparaît à côté de la plaque quand. À son diagnostic du mouvement, disons, politique et intellectuel, à cause de son combat, disons, prioritaire et même obsessionnel contre ce qu'il appelle la conversion libérale-libertaire de la gauche, encore aujourd'hui. Certes, une série de travaux sociologiques, notamment le travail de Luc Boltanski et F. Schiapello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme en 1999, ont mis en évidence la récupération par le néo-capitalisme dans les années 80 et 90, de ce qu'ils ont appelé la critique artiste d'inspiration libertaire, qui a été développée autour de mai 68. Il y a eu un usage par le capitalisme de cette critique artiste. Cette récupération a été mise en musique idéologique par Serge July dans le journal Libération des années 80, puisqu'il semble que l'expression libérale-libertaire vienne de lui, pour définir l'identité à l'époque de Libération. Libéral sur le plan économique et libertaire sur le plan des mœurs, on pourrait dire. Mais ce moment libéral-libertaire de la gauche et du capitalisme me semble en fait derrière nous. Parce qu'il y a toute une série de laboratoires qui ont, disons, transformé les choses. D'abord les laboratoires du blairisme, ce que Keith Dixon a appelé la partie réarmement moral du blairisme dans son livre « Ce dignité » sur Tony Blair de 2000, où Keith Dixon montre bien comment il y a une dimension à la fois sécuritaire et de réarmement moral dans le blairisme, à côté du néolibéralisme, et pas du tout une thématique de la liberté des mœurs. Bon. C'est aussi le néoconservatisme de George Bush dans les années 2000, qui associe le néolibéralisme à des dimensions fortement néoconservatrices. C'est les brouillages opérés par Nicolas Sarkozy, pendant qu'il est président de la République, et même un peu avant, entre néolibéralisme et sécuritaire, on peut dire, et puis xénophobie d'État. Mon hypothèse est que la pente dominante, suite à ces différents laboratoires, la pente dominante de l'époque est plutôt de droite à gauche, d'ailleurs, c'est plutôt un néolibéralisme sécuritaire, soucieux d'ordre, plutôt qu'à une apologie de la liberté des mœurs. Michéa continue à s'en prendre à Jack Lang, comme si c'était le symbole de l'époque, alors que Manuel Valls constitue sans doute l'avenir le plus probable pour la gauche française et européenne de gouvernement aujourd'hui. Et ce faisant, Michéa, en étant obsédé par cette dimension libérale-libertaire comme le cœur de ce qu'il faut mettre en cause, Michéa nous désarme tout particulièrement face au néoconservatisme des Soral et des Zemmour. aussi. Alors, avec en plus des interférences dans les thèmes, on en a déjà vu une série hein, entre Michéa, Soral, Zemmour, des interférences entre les thèmes, puisque les thèmes circulent hein, entre ces différents auteurs, même s'ils sont opposés ou différents. Et je l'ai dit, Soral et Zemmour se réfèrent beaucoup à Michéa dans l'usage d'un certain nombre de notions. Alors, il faut bien noter que c'est des interférences, hein, il faut éviter l'amalgame, puisqu'on ne trouve aucun thème xénophobe, à ma connaissance, chez Michéa. Je dis ça parce qu'on trouve parfois chez Internet, dans des critiques antifascistes, une association du terme Soral-Michéa qui ferait comme si c'était la même chose. Bon. Donc, à mon avis, l'amalgame n'est pas une bonne chose pour comprendre ce qui se passe. Bon. Alors, il brouille les pistes sur une série de thèmes, hein, le social contre le sociétal, l'égalité contre la lutte contre les discriminations, le libéral libertaire, etc., etc., l'essentialisation du peuple. Bon, le lien entre néolibéralisme et liberté des mœurs, etc., etc., bon, qu'on retrouve chez des auteurs comme Soral et Zemmour. Il brouille parfois plus nettement les cartes avec les néoconservateurs, souvent sous la forme de provocation. C'est un style un peu post-situationniste qui joue de la provocation, avec des formes ironiques, et où on ne sait jamais complètement où il se situe, mais il travaille souvent autour des limites. Par exemple, il passe beaucoup de temps de son livre à ironiser sur les luttes contre les discriminations, comme étant une mauvaise chose, contre la HALDE aussi, contre l'activité de la HALDE, la haute autorité contre les discriminations. Il reprend à son compte, à certains moments, la culture de l'excuse, c'est-à-dire cette thématique qui a été développée par Alain Finkielkraut, selon laquelle toute analyse sociologique des causes sociales de la délinquance est une excuse à la délinquance. Bon, il reprend à son compte ce thème. Et il va tenir des propos ambigus sur le mariage pour tous et l'adoption homoparentale, toujours critique, sans dire clairement s'il est pour ou contre, mais toujours avec un jeu critique et ironique, mais en semblant toujours prendre la défense du mariage traditionnel qui est présenté comme, pour lui comme une institution symbolique qui serait perturbée par toutes ces réformes. Il ironise beaucoup aussi sur toutes les démarches qu'il appelle sans frontières, hein, et notamment beaucoup contre le réseau d'éducation sans frontières. Et inversement, il fait l'éloge de l'identité nationale. Donc on retrouve, alors de manière plus ambiguë aussi, plus ponctuel dans son livre, toute une série de thèmes qui flirtent, disons, avec les éléments néoconservateurs. C'est pour ça que j'ai parlé donc de socialistes anarchistes, anticapitalistes, au penchant conservateur, à cause de ces flottements. Pas simplement les interférences avec les autres ou les usages que les autres font de lui, il n'en est pas responsable des usages que les autres font de lui, mais, disons, aussi une série de jeux, disons, avec des référents conservateurs. Voilà où je voulais en venir aujourd'hui. J'étais un peu long, mais pour faire le tour, disons, à la fois de cette galaxie, c'est-à-dire de deux bricoleurs les plus visibles, plus de deux désarmeurs brouilleurs à gauche, dans deux secteurs de la gauche différents, qui a proposé une sorte de parcours dans l'ère du temps néoconservateur, en train de se constituer, donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et cette ère du temps en train de se constituer participe bien sur un mode involontaire, à mon avis, et donc c'est pour ça que les théories du complot sont inadaptées pour analyser ce phénomène, participe bien sur un mode involontaire de ce que l'Unipop a appelé pour l'ensemble de ses cycles les liaisons dangereuses, aujourd'hui en jeu, et là les liaisons dangereuses dans le climat, disons, idéologique et politique. Voilà, on peut passer maintenant au débat.